Si on envisage la thèse selon laquelle l'ONU contribue à mettre en place un gouvernement mondial unique, la famille Rockefeller et l'ONU seraient certainement liées.
Cela signifie que le contrôle total et ultime de toute l'humanité est enveloppé dans de belles paroles. Et tout cela n'est pas une fantaisie ou une discussion, ce sont des objectifs décidés par l'ONU.
En juin 2019 déjà, le Forum économique mondial et l'ONU ont signé un accord de partenariat stratégique afin d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Diverses organisations visent par exemple ouvertement le pouvoir mondial par le biais de l'ONU. En Allemagne aussi, on travaille par exemple activement à l'abolition complète de la démocratie. Tout dépend maintenant du réveil des peuples et de la reprise en main par les gens de leur propre destin et de celui de leur pays. Du 19 septembre au samedi 23 septembre et le mardi 26 septembre 2023, l'Assemblée générale des Nations unies se réunira à New York. Des chefs d'État et de gouvernement se réuniront au siège de l'ONU. L'ONU compte au total 193 États sur un total de 195 États. À propos de l'Assemblée générale actuelle, l'ONU écrit entre autres qu'elle souhaite raviver un sentiment d'espoir, d'optimisme et d'enthousiasme pour l'agenda 2030. Mais que contient l'agenda 2030 et quels sont les objectifs poursuivis? Avant de répondre à ces questions, commençons par dire quelques mots sur l'ONU et ses antécédents.
Fondation de l'ONU et antécédents.
Le prédécesseur des Nations Unies ou de l'ONU était la Société des Nations, fondée en 1920 après la Première Guerre mondiale. Son objectif officiel était de promouvoir la coopération internationale et de parvenir à la paix et à la sécurité. Le 18 avril 1946, la Société des Nations a été dissoute lors de sa 21e Assemblée. Elle a été remplacée par la création des Nations Unies. Tous ces actifs ont été transférés à la nouvelle organisation. Les Nations Unies décrivent officiellement leur création comme suit.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale s'est terminée en 1945, les nations étaient en ruine et le monde voulait la paix. Les représentants de 50 pays se sont réunis du 25 avril au 26 juin 1945 lors de la Conférence des Nations Unies via une organisation internationale à San Francisco en Californie. Pendant les 2 mois qui ont suivi, ils ont travaillé à la rédaction, puis à la signature de la Charte des Nations Unies, créant ainsi une nouvelle organisation internationale, les Nations Unies, qui, espéraient-ils, empêcherait une autre guerre mondiale, comme cela vécu à l'époque.
La garantie de la paix mondiale est aujourd'hui encore l'une des principales missions de l'ONU, conformément à sa charte. Est-ce vrai ou l'ONU est-elle utilisée pour mettre en place un gouvernement mondial unique sous ce couvert? Une citation attribuée à David Rockefeller soulève des questions à ce sujet. Devant la Commission économique des Nations Unies, il a déclaré en 1994 « Nous sommes au bord d'une transformation mondiale ». Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'une véritable crise globale et les nations consentiront au nouvel ordre mondial. Si on envisage la thèse selon laquelle l'ONU contribue à mettre en place un gouvernement mondial unique, la famille Rockefeller et l'ONU seraient certainement liées.
L'ONU et la famille Rockefeller.
Il est intéressant de savoir que la Fondation Rockefeller a contribué de manière décisive à la manière dont le monde a été organisé après la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des études du Council on Foreign Relations, financées par la Fondation Rockefeller, qui ont finalement conduit à la création, entre autres, de la Banque mondiale, de l'OTAN et de l'ONU. John D. Rockefeller avait déjà fait don d'une bibliothèque aux prédécesseurs de l'ONU. La Société des Nations. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, l'a mentionné dans un discours en 2012.
Je suis honoré d'être ici en ce 85e anniversaire de la donation historique d'une bibliothèque par John D. Rockefeller Jr. à la Société des Nations. Il est tout à fait approprié que nous donnions son nom à cette salle. Je remercie la famille d'avoir fait don du portrait de John D. Rockefeller qui a été exposé pendant 65 ans à la Fondation Rockefeller. La famille Rockefeller a été à la hauteur de cette conviction et a immensément soutenu la Société des Nations et les Nations Unies au fil des ans.
John D. Rockefeller a également fait don du terrain, 7 hectares, sur la rive est de Manhattan, sur lequel la première pierre du siège de l'ONU à New York a été posée le 24 octobre 1949. La Fondation Rockefeller et la famille Rockefeller ont eu et ont toujours une influence considérable sur la création et le développement de l'ONU. Les liens avec les trois derniers secrétaires généraux de l'ONU en témoignent. Kofi Annan a été secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006. Il est le lauréat du prix David Rockefeller pour le leadership de transition 2009. Il était présent lors de la présentation des mémoires de David Rockefeller et le communiqué de la Fondation Rockefeller après sa mort était le suivant. Nous avons eu avec Kofi Annan un de nos partenariats les plus longs et les plus forts. De même, Antonio Guterres et Ban Ki-moon ont manifestement de bonnes relations avec la famille Rockefeller. Ban Ki-moon a été secrétaire général des Nations Unies de 2007 à 2016. On le voit ici lors d'une rencontre avec David Rockefeller. Comme nous l'avons déjà dit, Ban Ki-moon a prononcé un discours de remerciement en 2012 et a mentionné que la famille Rockefeller avait apporté un soutien considérable aux Nations Unies au fil des ans. Antonio Guterres est secrétaire général de l'ONU depuis 2017. Sur les photos affichées, il rencontre Arianna Rockefeller et David Rockefeller Jr.
Agenda 2030.
Maintenant, parlons de l'agenda 2030. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme et quels sont les objectifs poursuivis par l'ONU? Dans l'émission Agenda 2030, Étiquetage frauduleux, comment l'ONU entraîne le monde dans l'abîme, CLA TV a déjà pris position sur l'agenda 2030. Comment est né l'agenda 2030? Il a commencé à l'origine avec l'agenda 21, un programme d'action de l'ONU adopté en 1992. Il contient des recommandations d'actions concrètes en matière de politique de développement et d'environnement pour le XXIe siècle. Avec l'agenda 2030, adopté par l'ONU en 2015, les objectifs de l'agenda 21 ont été développés et s'appliquent désormais de la même manière à tous les pays. La réunion actuelle sert désormais à évaluer la mise en œuvre de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable. La mise en œuvre de l'agenda 2030 jusqu'à présent a-t-elle montré que l'ONU souhaite promouvoir la communauté mondiale? Ou est-ce que sa mise en œuvre conduit progressivement le monde vers l'abîme ou, en d'autres termes, vers un gouvernement mondial unique? Dans son livre Inside Corona, le journaliste d'investigation Thomas Roper prend position de manière plus détaillée sur l'agenda 2030. Il écrit:
l'agenda 2030 a été adopté par les États de l'ONU et le fait qu'il existe un catalogue de mesures spécifiques à ce sujet en Allemagne révèle déjà un problème central. Chaque État interprète les objectifs à sa manière.
Voici les points clés de l'agenda 2030 qui méritent d'être examinés de plus près. Le 16e point clé est promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. Le sous-point 16.9 stipule ceci. D'ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l'enregistrement des naissances. Ce point, à savoir la création d'une identité juridique ou même numérique unique pour tous les habitants de la planète, est déjà en cours avec ID 2020. ID 2020 prévoit une identité numérique transnationale en complément des systèmes étatiques. Toutes les informations sur l'individu doivent y être rassemblées. Preuves de formation et de vaccination, situation financière, compte sur Facebook, données produites par le smartphone. Thomas Roper dit à ce propos:
cela signifie que le contrôle total et ultime de toute l'humanité est emballé dans de belles paroles. Et tout cela n'est pas une fantaisie ou une discussion. Ce sont des objectifs décidés par l'ONU, sur lesquels on travaille et pour la réalisation desquels on dépense des milliards.
Le lien avec la famille Rockefeller se révèle également dans l'ID 2020. La Fondation Rockefeller est l'une des organisations centrales derrière l'ID 2020.
Financement de l'agenda 2030.
Pour financer l'agenda 2030, l'ONU dit avoir besoin de 5 à 7 billions de dollars par an, soit 5 000 à 7 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le produit national brut annuel de l'Allemagne est d'environ 4 000 milliards de dollars. L'ONU est d'ailleurs financée par les contributions des États membres. Pour mettre à disposition ces sommes immenses, l'ONU a notamment besoin d'encourager les partenariats publics-privés, ce qui est un autre objectif de l'agenda 2030.
Les partenariats publics-privés.
Qu'est-ce que cela signifie d'encourager les partenariats publics-privés? Thomas Roper aborde cette question en détail dans son livre. Page 46, il écrit:
il s'agit de donner aux multinationales plus d'influence sur l'ONU. Ou, pour le dire en termes géopolitiques, il s'agit d'accroître le pouvoir des multinationales au détriment des États-nations. Les entreprises veulent fixer les règles et ne plus être obligées d'obéir aux lois des États-nationaux. À long terme, ils veulent priver de tout pouvoir les États-nationaux et surtout leur Parlement qui peuvent voter des lois dérangeantes. Pour masquer cette érosion de la démocratie, on invente des termes qui sonnent bien comme « partenariat public-privé ». Cela rassure l'opinion publique.
Outre les grandes entreprises, l'influence des oligarques doit également être augmentée dans le cadre du partenariat public-privé. Thomas Rupert entend par oligarque des personnes et des organisations qui, grâce à leur richesse, exercent un pouvoir sur un domaine, comme par exemple la Fondation Rockefeller ou le Forum économique mondial. En juin 2019 déjà, le Forum économique mondial et l'ONU ont signé un accord de partenariat stratégique afin d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Diverses organisations visent donc ouvertement la puissance mondiale par le biais de l'ONU, par exemple. Selon Rupert, ce n'est pas du tout exagéré. En Allemagne aussi, par exemple, on travaille activement à l'abolition totale de la démocratie, comme l'indique un document du ministère fédéral de l'Intérieur intitulé « Smart City Charta ». Ce document a été publié en mai 2017 et est disponible sur CLA-TV. Il y est écrit sous le titre « Vision d'une planète hyperconnectée » au point 6.
Société post-voting. Société dans laquelle les élections ne sont plus organisées. Comme nous savons exactement ce que les gens font et veulent, il y a moins besoin d'élections, de recherche de majorité ou de vote. Les données comportementales peuvent remplacer la démocratie comme système de feedback social.
À l'avenir, les gens devront être enregistrés et contrôlés numériquement de manière si approfondie qu'on pourra déduire des données de ce que veut la majorité. Une raison de ne plus devoir organiser des élections ou de prendre des décisions sans élections. En outre, le concept Smart City parle de la Post-Ownership Society.
Grâce à l'information sur les biens et ressources partagées disponibles, il est moins logique de posséder quelque chose. La propriété privée deviendra peut-être en effet un luxe. Les données pourraient compléter ou remplacer l'argent comme monnaie.
Comment donc ces idées peuvent-elles être publiées officiellement? L'abolition de la démocratie ou de la propriété privée est tout de même contraire à la loi et devrait être punie. En fait, selon Thomas Rupert, cela se produit quand même. Cela fait des années qu'on y travaille ouvertement. En résumé, il apparaît que les objectifs de développement durable de l'ONU consistent en réalité en une augmentation lente mais constante du pouvoir et de l'influence de l'ONU. En effet, les États sont peu à peu dépossédés de leur pouvoir. On assiste insidieusement à l'abolition de la démocratie et, en fin de compte, des États-nations. En partant des débuts de l'ONU et de l'influence évidente de la Fondation Rockefeller, la question suivante s'impose. La création d'un gouvernement mondial unique était-elle dès le départ l'un de ses objectifs cachés? Tout dépend maintenant du réveil des peuples et de la reprise en main de leur destin et de celui de leur pays. Les peuples doivent connaître les arrière-plans et les projets qui se cachent derrière l'ONU et son agenda 2030. Diffusez donc cette émission aussi largement que possible.